franceinter.fr. La science de l'environnement, en partenariat avec reporter.net, le quotidien de l'écologie.
Est-il possible de résister à l'influence de la publicité? Question entre neurosciences et éthique aujourd'hui à la une de la science. Voilà, ça vous rappelle les souvenirs. Des chercheurs allemands et néerlandais, eux, démontrent que les pouvoirs d'influence de la publicité dépassent largement notre conscience et notre volonté. Même si vous choisissez d'ignorer un message et que vous luttez consciemment contre l'influence publicitaire, eh bien vos choix et vos achats sont impactés. Une première dans le monde des sciences de la communication qui pose aussi de nouvelles questions éthiques. Axel, on en discute avec nos invités.
Oui, Mathieu, nous sommes au téléphone avec Didier Courbet. Bonjour. Vous êtes professeur à l'université Aix-Marseille, spécialiste dans l'influence des technologies digitales et des médias. Et avec nous dans le studio, Hervé Kempf, notre partenaire, rédacteur en chef du magazine reporter.net. Bonjour Hervé.
Bonjour Axel.
Didier Courbet, cette étude, est-ce qu'elle ajoute justement un niveau d'influence au message publicitaire, une influence forcée? C'est vraiment une couche de plus?
Oui, j'ai envie de dire malheureusement presque, c'est une couche de plus parce que au moment où on a de plus en plus nos enfants et on est de plus en plus devant les nouvelles technologies, Internet et les marques qui investissent de plus en plus ces nouveaux types d'écrans, on s'était toujours demandé, nous les chercheurs, même si maintenant on sait bien que l'influence de la publicité est en grande partie non consciente, jusqu'à quel point on pouvait éventuellement psychologiquement la supprimer. Et malheureusement, cette enquête, ou heureusement pour les annonceurs, ceux qui font de la publicité, mais malheureusement pour les citoyens, cette enquête montre que même si on le veut vraiment, notre cerveau a beaucoup, beaucoup de mal à supprimer les effets inconscients des publicités.
Alors quels sont déjà les modes qu'on connaissait bien d'influence de la publicité ?
Alors aujourd'hui, on sait qu'il y a deux modes d'influence. Un mode qui est complètement conscient, c'est-à-dire que vous écoutez un message, puis vous vous dites à la fin, bah tiens, j'achèterais bien ce produit. Ça, c'est, on va dire, la publicité qui est plutôt sur le bon côté. Et puis, il y a un grand mode d'influence qui est plutôt non conscient, qui a été découvert par les scientifiques depuis une quinzaine d'années, où on a ici deux grands modes d'impact non conscient. Tout d'abord, la répétition, c'est-à-dire que plus la publicité est répétée et même si on ne l'écoute pas ou on ne le regarde pas complètement, eh bien, elle va être gravée dans notre cerveau. On a de nombreuses enquêtes et des recherches expérimentales qui le montrent. Et le deuxième mode, c'est les techniques qu'utilisent les publicitaires en essayant d'associer leur logotype, leur marque, avec tout un tas d'objets, d'animaux, de personnes qui provoquent des émotions agréables, comme des vedettes, comme des jolis animaux, comme parfois de la nudité, comme de la belle musique. Et on sait que quand on associe une marque avec par exemple un joli animal ou une belle musique, notre cerveau mémorise à notre insu les émotions positives générées par la belle musique avec la marque. Et donc on apprécie davantage la marque.
Et donc là, ce nouveau mode, c'est le mode qui marche quand on refuse, c'est ça ?
Alors c'est-à-dire que on s'était toujours demandé, et nous les premiers à l'université d'Aix-Marseille où on fait ce type de recherche, jusqu'à quel point est-ce que ce type d'influence inconscient, on est capable de le supprimer. Et ce qu'il y a de nouveau avec cette recherche, c'est que même quand le cerveau est occupé à faire quelque chose, c'est-à-dire que vous êtes amené par exemple à compter, vous êtes amené à essayer de mémoriser un chiffre et qu'il y a une publicité qui passe ou qui apparaît, à ce moment-là, eh bien, il semblerait que quand votre cerveau est occupé, eh bien, il traite quand même le message publicitaire à votre insu et il mémorise la marque avec des émotions positives. Donc ça veut dire qu'ici, même si a priori on ne veut pas être influencé, on essaye au moment où on reçoit le message que le message ne nous influence pas, eh bien, il semblerait que malgré tout le message nous influence.
Assez sidérant, Hervé Kempf, vous qui vous intéressez à l'écologie maintenant, celle du cerveau aussi vous préoccupe à reporter.net ?
Oui, puisqu'on a porté ce sujet avec vous, Mathieu, mais deux questions qui me turlupinent là en vous écoutant. D'une part, est-ce que le même mécanisme fonctionne quel que soit le média de la publicité ? Est-ce que c'est pareil pour la publicité télévisée, pour la publicité sur la radio et la publicité sur Internet ?
Didier Courbet.
Alors à la radio, non, parce qu'on n'a pas les images. Ceci dit, les techniques utilisées par les publicitaires à la radio, c'est bien sûr la répétition, ça c'est un premier point. Et puis deuxième point, c'est la fabrication d'images mentales, c'est-à-dire qu'avec simplement des sons, on va essayer de faire en sorte que les auditeurs s'imaginent la scène que le publicitaire est en train de nous montrer. Et quand l'auditeur s'imagine la scène, eh bien on sait qu'il y a une influence, et il mémorise la marque dans la scène qu'il a été amené à se créer. Mais globalement, l'influence à la radio est quand même un petit peu moins forte que l'influence à la télévision ou sur Internet. D'autant plus que sur Internet, on a aujourd'hui de plus en plus, par exemple, des jeux. Les enfants utilisent des jeux vidéo sur Internet. Les enfants sont sur les réseaux sociaux. Et donc, quand ils surfent, quand ils sont en train de jouer, il y a des émotions positives très fortes qui sont présentes. Et donc, au moment où la marque apparaît, alors que l'enfant ou l'adolescent est en situation d'émotion positive forte, eh bien, la marque est mémorisée dans le cerveau de l'enfant, enrobée d'une émotion positive très forte. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est très, très difficile à essayer de supprimer chez les enfants adolescents, mais aussi chez les adultes.
Didier Courbet, d'un point de vue éthique, cette manipulation qui persiste malgré la volonté de ne pas vouloir y céder, est-ce que ce n'est pas une nouvelle problématique ?
C'est une vraie problématique. Alors nouvelle, peut-être pas, parce que ça fait longtemps que les chercheurs qui travaillent dessus pointent justement ces problèmes-là. À titre personnel, je travaille au Conseil de la Santé publique en France, où on est amené à se poser des questions sur notamment la publicité qui concerne la nutrition, les produits agroalimentaires notamment, et ça pose des vrais problèmes, parce que les enfants qui sont encore moins capables que les adultes de lutter contre ces émotions négatives, sont soumis à tout un tas de messages pour des produits qui sont notamment pas super bons pour la santé, il faut le dire clairement, pour des bonbons, pour du chocolat, pour des céréales, et ça, c'est ce type de publicité. Là, on a deux solutions, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a une influence non consciente, soit première solution, lorsque les enfants, les adolescents achètent, ou lorsque les parents achètent ce type de produits, il faut que les parents sachent très bien que déjà, ils vont être malheureusement influencés à leur insu, mais si on met des règles, si le parent met des règles en place, au moment où il achète, des règles qui sont du genre, j'achète les produits qui sont les moins sucrés. Et puis, une fois que j'ai choisi les moins sucrés, je prends les moins gras. Là, à ce moment-là, s'il a des règles très précises d'achat au moment de l'achat, à ce moment-là, c'est une première protection contre les influences inconscientes de la publicité. Et puis, j'ai envie de dire, il y a une deuxième protection qui est justement celle sur laquelle on essaye d'alerter le grand public, mais aussi le gouvernement et tout ce qui est pouvoir politique, c'est qu'à un moment donné, il va falloir qu'on tape suffisamment fort pour essayer de protéger la santé, par exemple, des adolescents et puis globalement des Français. Et il va s'agir, à un moment donné, de se poser la question, ne faut-il pas légiférer, demander à réduire, voire à supprimer ces publicités pour des produits qui sont mauvais pour la santé. Je ne parle pas de toutes les publicités. Et notamment, une des recommandations qui a été faite par le Conseil de la Santé publique, c'est de demander à supprimer les publicités pour les produits qui sont mauvais pour la santé, uniquement ceux-là, autrement dit ceux qui ont un Nutri-Score D et E. Le Nutri-Score, c'est le logotype qui figure sur un grand nombre ou qui va figurer bientôt sur un grand nombre de produits, sur le packaging. Pour ces produits dont les influences sont à la fois non conscientes et puis surtout la consommation excessive fait que les enfants et les adolescents deviennent de plus en plus obèses dans nos sociétés.
Hervé Kempf, dernière question.
En fait, ce que vous soulignez, Didier Courbet, c'est qu'il y a une contradiction entre le discours public et de l'éducation nationale ou le discours public sur l'écologie, sur la nutrition, sur la nécessité de réduire la consommation et les émissions de gaz à effet de serre, et puis la publicité qui, elle, pousse dans ce sens-là. Mais ma question, ça serait, est-ce que quand même les dépenses publicitaires ou le nombre de publicités sont plutôt en voie d'augmentation, en voie de plafonnement ou en voie de diminution ?
Clairement, c'est en voie d'augmentation parce que avec Internet et les nouvelles technologies, et encore plus maintenant, bientôt avec les objets connectés, Internet a, les investissements publicitaires sur ce média-là, Internet a doublé la télévision il y a quelques mois là. Donc, autrement dit, clairement, le nombre de les investissements publicités, et plus globalement en communication commerciale, augmente dans les pays occidentaux.
Merci beaucoup Didier Courbet pour votre décryptage autour du pouvoir d'influence de la publicité, et puis un coup d'œil sur le sommaire de Reporter.net. Hervé.
Tout à fait, et à la une aujourd'hui, une grande enquête sur une technologie importante qui touche le quotidien de dizaines de millions de Français. Du train, le chemin de fer. Eh bien, au terme d'une longue enquête, vraiment de plusieurs semaines, de Marie Astier et de Pierre Isnard-Dupuis, on a interrogé des dizaines d'usagers, d'experts, de cheminots. En fait, on a fait un inventaire des lignes dites secondaires en France. On a établi une carte que l'on peut consulter dans le détail de toutes les lignes TER intercités. Le constat, il y a beaucoup à faire pour rénover les lignes. On a distingué en lignes fermées les lignes rouges, il y en a 27 en France. Les lignes oranges qui sont en ralentissement, qui fonctionnent mal, il y en a aussi 27. Et les jaunes sur lesquelles il y a souvent des problèmes de retard notamment, il y en a 47, c'est beaucoup. Il y a heureusement 10 lignes vertes, il y a encore des espoirs d'optimisme et des lignes qui remarchent bien.
Bon, ben tout ça c'est sur reporter.net, il suffit de se connecter pour en savoir plus. Merci beaucoup et Axel, à demain.
À demain.
Et puis en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, l'impact des téléphones portables sur la santé, toujours une grande question. Et bien là, le programme national de toxicologie américain vient de publier une étude menée sur 2 ans. 9 heures par jour, des souris et des rats étaient soumis à des radiations dont le niveau correspondait ou excédait les seuils de la réglementation américaine. Selon les chercheurs, difficile de savoir si les pathologies observées découlent de cette irradiation, mais ils observent chez les mâles un risque de développement accru de tumeurs dans certains tissus du cœur et des indications de dégâts dans l'ADN. Mais une découverte plus surprenante encore, les rats et les souris mâles exposés aux radiations vivaient plus longtemps que les autres, ce qui peut paraître paradoxal. Pour la FDA, l'agence qui a commandé cette étude, ces résultats qui en appellent d'autres ne suggèrent pas une modification de la réglementation américaine. L'un des premiers crayons de couleur de l'histoire, retrouvé près d'un lac à côté de la ville de Scarborough en Angleterre, ce bâtonnet d'ocre rouge date de 10 000 ans, long de 22 mm et large de 7. Sa forme laisse penser qu'il était utilisé pour colorer ou orner des peaux d'animaux. Proche du site de la découverte, les archéologues de l'université d'York ont également retrouvé un gros galet dont la surface était fortement striée. Selon eux, les chasseurs-cueilleurs le grattaient afin d'en extraire la poudre d'ocre utilisée de différentes manières pendant le Mésolithique. Et puis pour terminer, un panorama exceptionnel de la surface de Mars sur la planète. Depuis 2012, le petit rover Curiosity de la NASA a déjà envoyé de nombreux clichés. Et bien cette fois, il en a profité des bonnes conditions pour photographier l'immense cratère Gale. Prise depuis sa crête, les images collectées et assemblées en panorama font découvrir le chemin parcouru par le rover depuis son arrivée. La grande clarté du cliché permet même d'apercevoir une colline à près de 80 km. Afin d'aider les géologues, les couleurs ont été retouchées pour faire correspondre les roches aperçues avec celles du même type retrouvées sur Terre. Vous pouvez retrouver la vidéo explicative de ce voyage martien sur le Facebook de l'émission et faire comme si vous y étiez.